Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public, à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma pour la fête de famille critique avec Sophie Avon de Sud-Ouest, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, et vous le savez, tous les samedis soirs, vous êtes accro comme moi à son émission Une Heure en Série de 20h à 21h. Avec Eric Neuhoff du Figaro, dont je rappelle que le livre sur le cinéma français fait un malheur en librairie. Et avec Pierre Murat de Télérama.fr, on parle ce soir des films de Woody Allen, Céline Sciamma, Cédric Kahn, Cédric Lapiche, John Crowley, Zabou Breitman et James Gray. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Une fille facile de Rebecca Zlotowski et Zaya ont énervé, c'est le moins qu'on puisse dire, nos auditeurs. Pour Bruno Sivu de Rebecca Zlotowski, n'a rien fait d'autre qu'un coup médiatique et commercial. Cet auditeur, d'ailleurs, se demande comment, dans la même émission, Xavier Le Herpeur peut à la fois fracasser Meryl Streep et encenser Zaya machin. Que cet homme doit être malheureux pour en être là. Laurent Goumet juge que dans un choix de marketing, une pauvre fille siliconée qui a jadis fait le buzz nous est montrée comme un monstre de foire avec une caméra insistante sur ses courbes commerciales. Ce n'est pas le personnage de Sophia qui nous est montré, mais bien la people Zaya. Marianne Bernard de Draveil s'étonne que Jean-Marc et Xavier aient dit du bien de cette purge absolue qu'est Une fille facile, illustration parfaite de tout le mal que la Fémy sera fait au cinéma français depuis sa création, comme le laisse entendre dans son livre Eric Neuhoff. Il est honteux de faire payer les gens pour aller s'infliger ça. Ça devrait être l'inverse. Même colère de Julien Yegorovitch. Comment défendre le tout petit film de Rebecca Zlotowski, comme l'ont fait Xavier et Jean-Marc, d'habitude plus pertinent. Comment peuvent-ils laisser Eric Neuhoff avoir raison seul? Comment ont-ils pu, ajoute Julien Yegorovitch, ont-ils pu m'inciter à aller voir Une fille facile et à devoir donner raison au ricanant Neuhoff? Bref, je suis traumatisé. Arnaud Sanquer demande aux critiques de laisser Romer et Bardot tranquilles. Rebecca Zlotowski a réalisé un joli petit conte d'été, mais SVP ne convoquait pas l'histoire du cinéma pour parler d'un truc très mignon et qui se déguste comme une glace en bord de mer, mais qu'on aura vite digéré et oublié. Victoria et Max de Bordeaux parlent d'un film plat, voire inconsistant, en lieu et place du titre Une fille facile. Nous l'aurions rebaptisé plus volontiers Caricature d'une femme futile, ou encore Christian Revenu de Fontaine-lès-Dijon, qui dénonce une réalisation d'une platitude rare, un scénario d'une niaiserie sans nom, au point que j'ai envie de dire, et Rebecca Zlotowski créa le nanar de l'année 2019. Et oui, Xavier, c'est dur à entendre, je sais.
Non, mais il y a surtout beaucoup de concurrence.
Mais Hélène n'a pas aimé entendre Eric dire « On a Zaya pour le prix d'une place de cinéma, c'est moins cher que Ribéry ». Non mais franchement, j'avais même oublié.
J'avais pas les moyens avant.
Zaya a droit à une analyse plus juste et plus respectueuse. Sabine Arme Bruster de Besançon a aussi été choquée d'entendre Eric réduire Zaya Déhard à sa condition de fille tarifée. Ça te fait rien, toi, qu'on te dise tout ça?
Moi, j'aimerais bien être tarifé à ce niveau-là.
Tu es tarifé au masque et la plume. Jean-Frédéric Fabre Volto, qui nous écoute depuis la Terre Adélie, lui, bah, il a aimé la composition de Zaya. Après cette démonstration de légèreté, exit les Bardot de Neuve et Huppert. C'est-à-dire, j'ai quand même un mystère dans ce courrier. On a déjà passé le film en Terre Adélie. C'est bizarre. C'est possible, hein? Ah, ou alors peut-être par streaming. Delphine Auriol de Paris.
Alors comme par hasard, la seule personne qui défend le film, Lou, tu mets en doute
Lou également,
sa légitimité.
Non, parce que je demande Delphine
Auriol
de Paris. Lou également avec Zaya, une romérienne à la féminité épicée et à la peau chaude dorée par le soleil du bord
absolument.
De mer. Et pour Pierre Cusor, je termine avec ça pour ce courrier, il est indéniable que la caméra aime Zaya, qui a une façon de se mouvoir et de parler un peu à la Bardot, avec ce qu'elle peut avoir de légèrement énervant et de complètement fascinant. Voilà pour le courrier. Et pour finir ici, assez joliment, il faut dire à Nancy, j'ai reçu ce mail cette semaine d'Anne Stösser et de Jean-Christophe Smucala de Paris, et qui se sont amusés à créer des homophonies sur le masque et la plume, un peu à la manière des papous, vous savez, d'autrefois, l'émission de France Culture. Fugace, la trace et l'écume, mythologique, l'Ajax et l'Hercule, romantique, le chaste et la brune, c'est pas mal, alcoolique, la flasque et la prune, parisien, ça j'aime beaucoup, la crasse et le rhume, nuptial, le frac et le tulle, interlope, le mac et la thune, maritime, la brasse et la dune, il y en a beaucoup d'autres. Merci encore, cher Masque, chère Plume, d'embellir nos soirées du dimanche. Et merci, Anne Stösser et Jean-Christophe Smucala. Allez, on commence avec Un jour de pluie à New York, le 53e opus de Woody Allen, sorti cette semaine en France. Je dis bien en France, puisque les Américains ne verront pas ce film, puisque le cinéaste là-bas est devenu persona non grata depuis Me Too, avec cette comédie Woody Allen, dont les derniers films nous avaient, enfin en tout cas m'avaient déçu, renoue pourtant avec sa veine la plus new-yorkaise, la plus américaine, si j'ose dire. On se croirait presque revenu à l'époque de Annie Hall. Deux étudiants, Gatsby, comme le Gatsby de Fitzgerald, c'est Timothée Chalamet, et Ashley, c'est Ellie Fanning, que j'ai personnellement jamais vue aussi bonne au cinéma depuis longtemps, décide de passer un week-end d'amoureux à New York. Ce sera pour Ashley en plus l'occasion d'interviewer, pour le journal de sa fac, un cinéaste dépressif qu'elle admire beaucoup, un certain Roland Pollard, joué par Liv Schreiber. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et en fait, de soleil, il pleut sur Manhattan. Gatsby, qui rêvait d'une romance et pensait échapper à la grande soirée mondaine organisée par sa mère, va voir sa dulcinée kidnappée non seulement par le cinéaste, dont le scénariste est joué par Jude Law, mais aussi par son bellâtre d'acteur incarné très bien par Diego Luna. Voilà, ce vaudeville version new-yorkaise, est-ce que vous l'avez, 1h32, hein, pas plus, est-ce que vous l'avez aimé autant que moi, Eric?
Formidable, on retrouve notre Woody Allen. Là. C'est la meilleure réponse à ses détracteurs, aux gens d'Amazon qui ne sortiront jamais le film aux États-Unis, ce qui est complètement ridicule. Là, on voit que Woody Allen est quand même un des meilleurs cinéastes au monde, qu'il a un talent fou, qu'à 80 ans et quelques, il continue à avoir une jeunesse incroyable. C'est une petite merveille, c'est presque comme la ronde de Schnitzler, c'est deux étudiants qui...
En plus léger,
oui. Ah ben, il y a des moments avec un petit peu de gravité quand même, là. Et tu as raison, Elle Fanning, qui jouait comme un plat de nouilles jusqu'à présent, là, elle est épatante.
Y compris comme jurée au Festival de Cannes.
Ah ben là, on n'en parle même pas. Elle sait tout faire là-dedans, elle est mignonne, elle est marrante, elle est innocente, elle est cynique, elle est gourdasse, elle fait tout ce qu'il faut. Et le film rebondit sans cesse d'épisode en épisode avec ce nigo de Chalamet qui est quand même un intello.
C'est pas un nigo.
C'est un innocent un peu quand même, c'est un fils de famille qui est joueur de poker. Non, c'est le héros parfait d'un roman de Fitzgerald, ou d'une nouvelle de Fitzgerald plus exactement, et qui est amoureux de cette fille qui, elle, est totalement, c'est la première fois qu'elle met les pieds à Manhattan, elle est totalement ébahie par tout ce qu'elle voit, toutes ses rencontres. Elle se fait draguer par le metteur en scène dépressif, elle rencontre le scénariste, elle tombe sur un acteur vedette à la Antonio Banderas qui joue Zorro, et elle lui dit « Ma meilleure amie vous vénère autant que la pilule du lendemain ». Elle se retrouve en sous-vêtements sur un escalier d'incendie un soir de pluie. La pluie joue un grand rôle. On voit Rebecca Hall tout d'un coup en ciré jaune en train de tromper son mari. Non, tout est bien, tout rebondit. C'est vraiment un film qui vous donne envie d'aller à New York, d'avoir 20 ans à nouveau, de tomber amoureux de votre
petite amie. Oui, c'est ce que je me disais en sortant de penser que les Américains, et surtout les New-Yorkais, vont être privés de ce portrait de New York. Tout à fait.
Ce serait une occasion pour eux de venir le voir à Paris, ce film.
Sophie.
C'est un film adorable. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vrai qu'il est, comme a dit Eric, à la fois merveilleux, léger, une réponse par le haut, par l'amour, par la jeunesse, à toute cette boue qui était collée au basket de Woody Allen. et qu'en effet, à 84 ans, il retrouve une jeunesse incroyable pour parler de ces jeunes gens. Alors, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément un innocent, Timothée Chalamet, enfin, le Gatsby. C'est plutôt un jeune homme vieux, enfin, c'est un jeune homme qui il pourrait sortir de La La Land. Il aime les vinyles, il aime le jazz. Parce que quand on est jeune.
Avec des gros problèmes familiaux, quand même, hein.
Il déteste sa mère, qui veut absolument, dont il ne sait rien, et le film va aussi dénouer ça.
On le saura
à
la fin,
bien
sûr. Ce qui va se passer.
Ce qui est très joli. Et c'est vrai que c'est normal qu'on raconte le film plutôt que de l'analyser. C'est pas un film qui se prête à l'analyse. Parce que c'est un film qui, dès le début, on sait qu'ils sont chacun dans leur bulle. Et que, évidemment, ils vont passer le film à comprendre qu'ils n'ont pas fait l'un pour l'autre. On le sait dès le début, ça, parce qu'ils sont dans une joie de passer ce week-end à New York, mais chacun répète sa joie, l'une d'interviewer Roland Pollard, et l'autre de pouvoir montrer à sa dulcinée le New York. Et donc, on voit très bien ce qui va arriver, mais en même temps, on est tout le temps surpris, c'est huilé, c'est une mécanique extrêmement huilée, c'est une horloge merveilleuse, minutieuse, et c'est vrai qu'Elle Fanning, elle est... Il pourrait être caustique dans son humour, il est jamais caustique, elle est journaliste, il pourrait se foutre des journalistes à travers elle. Il le fait un peu, mais elle est tellement adorable, elle est tellement charmante.
Il se moque aussi du cinéaste dépressif. Hein.
Il se moque de lui, parce que lui, il s'identifie évidemment aussi au cinéaste. Et tout ce qu'il fait, il le fait sans cruauté, avec beaucoup d'humour, sans cruauté, mais la vie est cruelle. Et c'est ce que le film montre.
Xavier.
C'est évidemment un bon Woody Allen par rapport au cru précédent,
ah oui,
qui n'était quand même pas régulièrement à la hauteur, mais quand même défendu par une presse française qui a pour mission...
Le masque, chaque fois, j'étais
obligé
de m'opposer un peu.
Même un mauvais film à Woody Allen, c'est bien quand même. Hein.
Non, on s'est tapé Blue Jasmine, qui avait été encensé par la presse, et qui était vraiment une horreur absolue.
C'est très bien, Blue Jasmine.
Non, Blue Jasmine, c'était pas bon, arrêtons. On va pas refaire le débat. Faisons le débat sur Un jour de pluie à New York, où je suis presque d'accord avec vous sur énormément de choses, la fluidité, les hommages à la comédie américaine, les citations, Piloto, enfin vraiment tout ce qu'on a aimé, toutes ces grandes comédies.
Je sens le mais.
Il y a un petit mais qui arrive. Effectivement, pour une fois, il se dit que la mise en scène peut raconter quelque chose qui ne passera pas nécessairement par le dialogue, donc ça donne une articulation, quelque chose d'un peu plus aéré. L'appartement, justement, de l'acteur Diego Vega, dans lequel on joue et on se retrouve bien évidemment en petite tenue à l'extérieur, sous la flotte. Tout ça est absolument ravissant et je recommande le film. La seule chose, c'est Elle Fanning, pardon, c'est pas possible.
Oh non.
C'est la pire.
Oh non.
On aime tous.
Non, c'est pas possible.
Elle est
effroyable. Oh. C'est-à-dire qu'on lui a dit, tu joues une oie blanche. Alors elle est allée chercher une oie blanche. Et elle caricature, elle passe son temps à tout.
Il va nous limiter, faites gaffe.
Oui, c'est ça. Bah, elle était limitée de toute façon. Elle ouvre la bouche, elle écarquille les yeux, elle ouvre les oreilles, elle ouvre les bras. Enfin, je veux dire, oh mon Dieu, mais
pas
c'est
seulement.
Extraordinaire! Oh, mais c'est formidable! Oh, mais je vais rencontrer quelqu'un! Elle a tout le temps la même tonalité.
Elle est
ingénue, certes, ça
elle
se joue sur quelques heures, donc elle a le droit de ne pas beaucoup évoluer, mais elle est crispée. Mais je reste patron, mais je l'offre au premier scénariste, metteur en scène, éboueur de la ville qui en veut. Moi, je suis petit copain.
J'ai trouvé quelqu'un de plus misogyne que moi.
Non, c'est justement parce que j'aime les femmes que j'ai un problème avec Elle Fanning, qui est aussi incarnée qu'une poupée Barbie.
Oh là 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 là.
Et encore, il y a des poupées Barbie qui ont plus de relief.
Bon, je te coupe la parole, Pierre.
Moi, la grande surprise pour moi, c'est Timothée Chalamet, parce que je trouvais ce jeune homme qui est une idole. Hein, tout le monde aime Timothée Chalamet.
C'est la nouvelle star.
La nouvelle star. Et je trouvais cette nouvelle star jolie à regarder, mais absolument sans intérêt.
C'est déjà pas mal. Hein.
Bon. Et là, grâce à Woody, alors en plus, ce qui est génial, c'est que Woody en fait un personnage... un double de lui jeune, c'est-à-dire que, en effet, tu l'as dit, il est vieux, quoi. C'est-à-dire que il aime le jazz, il aime les vieux films, il est complètement comme Woody était au temps d'Annie Hall, et il réussit avec ce jeune homme totalement démodé, totalement hors du temps, totalement hors sol, à faire une silhouette absolument délicieuse que Timothée Chalamet, quand il se met au piano et qu'il chante un standard jadis chanté par Frank Sinatra, et c'est absolument génial. Et alors, ce qui est toujours très bien chez Woody, dans les comédies, parce qu'il a fait des drames absolument splendides, mais ce que j'aime chez Woody dans les comédies, rythmées comme celle-là, c'est la fatalité du bonheur. C'est-à-dire que tout le monde se trompe. Il montre des personnages qui se trompent tout le temps. Ils se trompent dans ce qu'ils vont faire, ils se trompent dans les gens qu'ils rencontrent, dans leurs amours et tout. Et brusquement, il y a une sorte de fatalité du bonheur qui se met à la place de ces personnages et qui rend la vie absolument supportable. Voilà, c'est un film délicieux.
Un jour de pluie à New York, c'est donc le nouveau film de Woody Allen que d'ailleurs la plupart des pays européens peuvent voir. Ça va s'échelonner entre maintenant et la fin de l'année. Ad Astra de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones Liv Tyler, qui se déroule tout là-haut en 2120, quand la Lune est totalement colonisée par les Terriens. Et Brad Pitt, c'est Roy McBride, un astronaute de la NASA dont le télescope a été détruit lors d'une surcharge venue de Neptune. Il part alors en mission à la recherche de, oui, je dis bien de feu son père, Clifford McBride, qui est joué par Tommy Lee Jones, disparu 16 ans plus tôt, alors qu'il tentait d'établir une base sur Neptune. Il y a quelque chose de presque de méditatif, d'assez planant, il faut dire, dans ce film, de plus de 2 heures, qui nous ferait presque croire à une intelligence extraterrestre. Xavier ?
Merveilleux, formidable, sublime. D'abord, la beauté du spectacle, c'est quand même très agréable. Il faut aller le voir dans la plus grande salle possible, tellement la beauté de l'image, de la mise en scène explose à chaque plan. C'est déjà un premier immense plaisir de spectateur, de cinéphile. Et puis après, il y a une histoire qui est absolument bouleversante. Ça commence par un homme qui, au milieu d'autres, enfin, à côté d'autres en tout cas, est sur une immense échelle qui semble relier la terre et le ciel, et il va chuter comme Icare a chuté quand son père l'a envoyé s'approcher du soleil, parce que c'est le grand thème du film. C'est pas simplement un problème sur papa, tu as été méchant, est-ce que je peux me pardonner de ne pas t'aimer. Ça pourrait être un sujet traitable sur Terre, dans une ferme, dans Milwaukee. Il le met dans le cosmos. Donc il le met obligatoirement à un moment dans le questionnement, non pas simplement du père, mais du créateur et de Dieu. Et c'est un grand film agnostique dans l'Amérique contemporaine de Donald Trump, où on prête allégeance à Dieu, quelle que soit sa confession, et même si on n'en a pas tous les matins dans les écoles, dans les administrations, faire un film qui parle du droit à tuer le père et de la possibilité à vivre encore après le père et après Dieu, il y a un plan sublime qui est de pur cinéma. Ça ne passe jamais par le dialogue, ça passe uniquement par la beauté d'image, du montage. Il y a un plan extraordinaire qui dit oui, on peut vivre sans Dieu. Ça n'a l'air de rien dans un pays comme le nôtre qui est laïque. Aux États-Unis, c'est un grand bras d'honneur à ce qui se dit, à ce qui se fait. Le film est politique, le film est esthétique. Il y a Ruth Negga, que tu n'as pas cité, qui est quand même la plus belle actrice du monde à ce jour avec Tilda Swinton.
Ah oui, alors toi, t'as vraiment, t'as tes têtes, hein.
Alors, j'aurais la tête de Ruth Negga, tu vois, ma vie serait quand même terriblement différente, n'est-ce pas? Je pense que je vivrais beaucoup mieux ma situation.
La nôtre aussi.
Ça, je te le souhaite. Mais, bon. Dieu que c'est immense, Dieu que c'est grand, Dieu que c'est beau, Dieu que c'est fort.
Il me semble que tu as aimé ce film. Pierre.
Il n'y a pas Elle Fanning.
Il n'y a ni Elle Fanning, ni Isabelle Huppert pour Eric Neuf. Pierre.
C'est absolument magnifique, c'est splendide. C'est à la fois spectaculaire, car c'est spectaculaire. C'est pas du tout un film embêtant. Il y a des poursuites sur la Lune. Il y a plein des attaques d'animaux à un moment donné. Vous allez voir, c'est absolument spectaculaire. Et en même temps, les cinéphiles, comme nous tous ici, dans cette salle, sommes comblés parce que ça rappelle évidemment les grands, grands films sur ce sujet qui sont 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick et surtout Solaris de Tarkovsky. Quand le héros, Brad Pitt, qui est formidable, formidable, débarque dans une station où est passé tout le monde, il n'y a plus personne, c'est évidemment Tarkovsky, Solaris. Alors, la seule chose qui, moi, me gêne un tout petit peu, contrairement à toi, à Xavier, c'est que le scénario est axé quand même sur, alors tu l'expliques très bien, mais c'est, il est axé sur le père, la recherche du père, papa, ou ça, est-ce que tu m'as trahi, est-ce que je t'aime, est-ce que je t'aime pas.
Je pense quand même. C'est ça le sujet quand même.
Pardon?
C'est ça le sujet quand même.
C'est ça le sujet. Et je pense que ce sujet un peu trop, qu'on a peut-être, on l'a forcé à le faire, pour que ça soit un peu, pas trop ésotérique, plombe un peu le film. C'est-à-dire que c'est pas Tarkovsky et c'est pas Kubrick, mais ce niveau-là, au point de vue mise en scène, c'est absolument sublime. Mais papa, je t'ai perdu, est-ce que papa existe, etc. Moi, non.
Eric.
Ça réussit à être à la fois grandiose et intimiste. C'est ça qui est particulièrement réussi. Et tu as tort, c'est pas papa Théo. Si, non, c'est Apocalypse Now, c'est du Conrad. C'est le type qui va chercher le cœur des ténèbres.
Oui.
Et c'est son père, c'est le colonel Kurtz.
J'ai bien compris.
C'est un film qui fait penser à un tas de choses. À Alien au début, à Apocalypse Now. C'est un film d'action.
Solaris,
il y a une poursuite de bagnole sur la Lune. Et on dirait du Mad Max quasi silencieux. C'est une scène hallucinante. L'accident du début, là, quand il tombe dans le vide.
C'est
d'une beauté. Xavier a raison. Il faut aller le voir sur un écran gigantesque. C'est vraiment un film où on est scotché dans son fauteuil et on se dit, je n'ai jamais vu ça parce que ça démode un peu 2001. C'est moins prétentieux que 2001, je trouve. C'est d'une profondeur rare. Il y a la lettre d'un père à son fils qui est magnifique et bouleversante. Tous les pères rêveraient de recevoir une lettre comme ça. Tommy Lee Jones, qui est planqué là dans sa navette spatiale perdue, est extraordinaire.
Et Brad Pitt aussi.
Et Brad Pitt, là, il est encore plus émouvant pour les femmes que quand ils se mettent torse nu dans le Tarantino. Là, à un moment donné, on le voit verser une larme derrière la vitre de son casque de cosmonaute, et c'est absolument magnifique. Et le slogan, ça devrait être, en parodiant Alien, dans l'espace, personne ne vous verra pleurer.
Sophie.
Oui, vous avez dit beaucoup de choses. Je trouve le film très beau. Alors moi, je suis en effet pas trop d'accord avec l'histoire de la quête du père, parce que ce que j'aime beaucoup justement chez James Gray, c'est que il fait semblant de faire un film sur la quête du père, mais il déjoue ça. Et en fait, c'est évidemment un film sur une quête de soi. C'est-à-dire qu'il a besoin d'en passer par son père pour comprendre qu'il ne veut pas ressembler à son père, que son père qui est parti, qui s'est barré, qui a quitté le domicile conjugal d'une certaine manière, qui s'est évadé dans l'espace. Ben, il a besoin d'aller le voir aux confins du système solaire pour s'apercevoir qu'il veut pas ressembler à ça et que lui, au contraire, il veut apprendre à aimer. Et lui, au contraire, il veut apprendre à vivre sur Terre et avoir un pouls qui se met à battre un peu plus vite. C'est finalement un éloge de la vie domestique, hein, quasiment. Il faut aller jusqu'à Neptune pour apprendre à vivre sur la Terre. Et ce que j'aime chez James Gray, c'est qu'il déjoue tout comme ça, de même qu'il tisse très serré le fantastique et le réalisme, tu l'as un peu dit, Eric. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de filmer les choses les plus fantastiques de manière très réaliste. C'est-à-dire l'espace, tout ça, il le filme finalement de manière presque triviale. Et en revanche, tout ce qui vient de lui,
je vous rappelle que son dernier film, c'était The Last City of Z, et qu'on le voit, on voit quand même une évolution.
Oui, mais c'est toujours
chez le réalisateur de Little Odessa, quand même, qui, d'ailleurs, je me demandais ce qu'il va faire après, hein.
Mais il y a toujours la notion de le voyage, la maison, hein. C'est toujours l'oscillation entre le voyage et la maison. Et alors, juste pour finir, et en revanche, le fantastique, il est produit par du quotidien. C'est-à-dire, en effet, ce que vous avez dit, la lune, colonisée par les hommes, qui ressemble à une gare routière, la poursuite, le babouin, enfin, des choses comme ça. Et ça, c'est très, très habile et très beau.
Ad Astra de James Gray. Allez, un peu de cinéma français avec Fête de famille, le film de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve en matriarche, Cédric Kahn lui-même, bien comme comédien aussi, je trouve, et Vincent Macaigne dans le rôle des fils, Emmanuel Berco en fille prodigue et totalement brinzingue, j'en dis pas plus. Mais aussi Luana Bajrami, Laetitia Colombani, oui, la romancière de La Tresse, Alain Arthur, beaucoup d'autres, toute cette tribu qui débarque dans Lot-et-Garonne et dans la belle maison d'Andrea Catherine Deneuve à l'occasion de son anniversaire. Belle maison, on va comprendre qu'elle n'est pas aussi luxueuse et bourgeoise que ça et que voilà, il y a des murs écaillés. Tout le monde est là, sauf Claire, c'est-à-dire Emmanuel Berco, qui avait disparu des radars familiaux depuis 3 ans et qui arrive du Québec au dernier instant, il faut dire, dans un sale état, avec l'intention d'exiger la vente de la maison et de récupérer sa part d'héritage sous l'œil caméra. Alors là, c'est un peu l'idée du film de Romain, c'est-à-dire Vincent Macaigne, qui veut immortaliser ses retrouvailles dans un film cadré, dit-il, à la manière d'Ozu. Évidemment, la fête de famille champêtre va virer au jeu de massacre. Je le dis rarement, mais là, j'ai été très surpris, frappé par la violence de certaines critiques sur ce film. Qu'en avez-vous pensé, Pierre? Tiens.
Ah ben, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui est très trompeur. C'est-à-dire que j'ai lu des critiques en disant que c'est un peu joyeux, des bons mots. Alors oui, il y a ça. Mais en même temps, c'est un film très violent, me semble-t-il, sur la famille, mais en apparence pas. Et le personnage central, évidemment, c'est pas tellement la grand-mère Catherine Deneuve ou les autres, c'est le personnage interprété par Emmanuel Berco qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, et on s'aperçoit très vite que c'est le personnage dont personne ne veut. Elle me fait un peu penser, alors toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, mais un peu à Jenna Rowlands, enfin ce personnage de John Cassavetes, c'est-à-dire qu'ils sont en effet totalement fous, totalement cinglés, totalement, et on s'aperçoit peu à peu quel poids elle représente sur les autres et comment les autres finalement, alors pour des raisons financières, pour des raisons là, veulent s'en débarrasser. Moi, j'étais très frappé de constater que finalement c'est un film sur comment se débarrasser de quelqu'un dont on veut pas.
Tout en l'accueillant les bras ouverts au début, quand même.
Tout en disant, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien que t'es venu, on va le chercher, etc. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une gêneuse. C'est exactement comme dans le cinéma de Cassavetes, certains personnages pouvaient l'être. Et finalement, sous ces dehors comme ça, très poli, très presque joyeux, mélancolique, tchékovien, allons-y. Eh ben, c'est beaucoup plus féroce que ça, et c'est un film très intéressant. Mais Cédric Kahn, et comme comédien, il est très intéressant aussi. Voilà.
Sophie, bah justement, je t'ai lu, tu es plutôt critique sur ce film dans Sud-Ouest.
Mais
je t'ai
vraiment
trouvé
à ma grande surprise,
sévère.
Parce que j'aime énormément les films de Cédric Kahn, et à ma grande surprise, je suis restée un petit peu en dehors de ce film-là. J'entends tout ce que tu as dit, Pierre, je suis d'accord avec toi. Je trouve que néanmoins, c'est un film qui me paraît avoir mal foutu, un peu expédié, un peu fait à la va comme je te pousse. Je pense qu'il hésite, justement, il veut faire de la comédie, il veut faire une grande comédie familiale, il veut faire ça. Et en même temps, tu as raison, c'est dans la mélancolie qu'il est le meilleur. Mais c'est pas ce qu'il veut faire, et donc il est toujours en train d'hésiter comme ça. S'agissant d'une famille mal peignée, évidemment, il ne faut pas que le film soit trop lisse et trop bien peigné pour le coup. Mais je trouve qu'il y a des dissonances, il y a un manque de justesse, il y a une interprétation qui est quand même assez inégale, qui fait que même si je trouve qu'il y a des moments qui sont beaux, parce que malgré tout c'est Cédric Kahn et que c'est un bon cinéaste, mais le film me... Et tout à coup, je vois la fin du film, je vois ce film fantôme qui sort du film, parce qu'à la fin, il y a une sorte de film fantôme qui arrive, oui. Le film dans le film. Oui. Et là, tout à coup, je me suis dit, eh ben, voilà, c'est ça le film qu'il aurait dû faire, qu'il aurait pu faire, c'est le rapport entre le frère et la sœur, parce qu'en effet, il cherche trop son sujet. C'est-à-dire qu'il veut faire un film de famille, mais le vrai sujet, c'est la revenante, c'est la fille prodigue qui revient dans la famille et qui est complètement cintrée. Et qui, eh ben oui, mais c'est comment on s'arrange de ça et comment le frère et la sœur se retrouvent au cœur. Pour moi, en tout cas, c'est ce film-là qui, comme par hasard, arrive à la fin, parce qu'il le montre quand même, ce film.
Xavier,
je suis pas d'accord, je trouve le film remarquablement construit. Je peux comprendre, moi il m'a un peu déstabilisé, je me suis dit, oh là là, il est parti sur une comédie très acide, très citrique, très agressive, et en même temps je le trouve remarquablement construit. C'est-à-dire, tu as parlé de Vincent McCain qui était en train de filmer les retrouvailles avant même de savoir que sa sœur va arriver, mais il y a aussi les enfants qui sont en train de monter un spectacle, qui est encore un autre point de vue, une autre sédimentation de l'hypocrisie, le non-dit. La maison ressemble terriblement à la famille, il y a toujours des lieux cachés comme
ça,
on a caché de l'argent dans la vie.
Mais en même temps, c'est pas une famille qui roule sur l'or comme on peut le croire au début.
L'argent est vraiment au cœur de l'histoire. Oui. Et je le trouve extrêmement bien construit parce qu'en fait, derrière son côté comédie acide dans l'unité de temps, comédia dell'arte, enfin, il y a vraiment cette utilisation des unités théâtrales, c'est toute cette sédimentation des rôles qu'on a répartis dans la famille. L'emmerdeuse, ça c'est la sœur, et surtout qu'elle n'en sorte pas, surtout que derrière l'emmerdeuse, il y a quelque chose, et Pierre a dit un mot très juste, c'est un film qui est trompeur, on trompe l'œil incessamment. Il y a le fils soi-disant sérieux, le pivot,
qui est joué par Cédric Kahn,
sur lequel on peut compter, et en fait, pas tant que ça, il y a Vincent McCain qui pourrait être l'espèce de foufou comme ça, gentil, et qu'on va découvrir de plus en plus toxique et manipulateur jusqu'à ce plan final qu'on ne révélera pas. Et je trouve que le film, au contraire, détricote de manière extrêmement intelligente, extrêmement solide, ce noyau, ses apparences, pour en arriver effectivement
trop déguisé,
à cela. Et ben non, moi je trouve qu'il enlève son déguisement comme les enfants vont les enlever à la fin de la représentation. Et il me bouleverse justement dans la justesse de ce qu'il dit sur les mensonges, les non-dits, les hypocrisies qui structurent et déstructurent et détruisent toutes les familles.
Et avec, parce que le rôle n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire, une Catherine Deneuve qui est particulièrement
est
bonne
bien,
dans ce
vrai,
rôle de matriarche. Eric.
Je suis triste parce que je suis complètement d'accord avec Xavier. C'est un film assez dérangeant.
Je suis triste aussi, merde.
Non, c'est un film assez dérangeant et qui prouve une fois de plus qu'il n'y a rien de plus romanesque que la famille. Et là, Kahn est très très habile parce qu'on apprend un tas de petits trucs par petites touches. On comprend pas qui est qui, quels sont les rapports, si c'est le premier mari, le deuxième. Ah non, pas tout de suite. Et le film est très juste et Emmanuelle Berco qui déboule, tu as raison, elle fait penser un peu à Jenna Rollins dans Une femme sous influence, mais à côté de Jenna Rollins, c'était d'un calme olympien, parce que là, c'est une tornade qui déboule dans cette baraque. Et c'est pas un hasard si ça se passe dans le Sud-Ouest, comme les romans de Mauriac, parce qu'il y a tous les non-dits qui ressurgissent, les histoires d'argent, les histoires...
Enfin, ça, c'est partout, c'est pas dans le Sud-Ouest.
C'est assez...
Voilà. Je suis sûr qu'à Nancy, il y en a autant qu'à Bordeaux, hein.
Là, c'est
miracle. Et puis Emmanuelle Berco a trouvé le rôle de sa vie, là. On la voit débouler. Et Deneuve est là, impériale, intelligente, belle.
D'ailleurs, elle éclipse totalement le mari qui n'existe pas.
Oui, mais le mari est très juste dans un rôle.
Elle est indifférente, la manière dont elle traverse tout cela, en ne rentrant dans aucun conflit, en tournant les pieds dès qu'il y en a un, la voiture accidentée,
tout ça. C'est génial. Très, très bien, ouais, là.
Fête de famille, c'est le film de Cédric Kahn. Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, vous savez, la réalisatrice de Bande de filles, qui a reçu à Cannes le prix du scénario avec Noémie Merlant, Adèle Haenel et toujours Luana Bajrami. Ça se passe là beaucoup plus tôt, en 1770. Marianne, c'est donc Noémie Merlant, qui est peintre, qui doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse. c'est-à-dire Adèle Haenel, laquelle vient de quitter le couvent et doit épouser un riche Italien, d'abord promis à sa sœur, qui s'est suicidé du haut d'une falaise. Mais Héloïse refuse et le mariage est posé, ce qui contraint Marianne pour la peindre en secret à la rejoindre sur l'île bretonne où l'accompagne sa mère, Valeria Golino, et leur domestique, donc un gynécée insulaire, où va brûler le feu absolu des amours interdites. Enfin, il faut s'entendre, l'histoire est totalement brûlante. J'ai trouvé la réalisation totalement glaciale. C'est peut-être voulu, mais ça m'a semblé un peu paradoxal. Éric.
Si on aime le titre, on trouvera que le film est bien, là. Portrait de la jeune fille en feu. Mais aussi, on peut se dire que c'est un titre ridicule, scolaire et con-con. Et moi, c'est mon avis, parce que c'est un film, tu as raison, complètement empesé. Et puisqu'il est question de peinture, le vrai titre aurait dû être « Accroche-toi ou pince-homme ». Non, parce que c'est vraiment un exercice de bon élève. Là. Elle s'est dit, tiens, je vais
exercice
faire...
Exercice de 2 heures, hein, quand
ouais,
même.
Oui, de 2 heures qu'on s'en passait. La peinture a le temps de sécher. Voilà. Hein. Et on voit qu'elle s'est dit, je vais être Jen Campion. Là. Alors, ça, c'est vraiment la leçon de Pipo, parce que tout est... Et puis, cette histoire de la peintre et de son modèle, il y a un suspense insoutenable, parce que est-ce qu'elles vont coucher ensemble? Mais oui! Et on le sait depuis le début. Et comme c'est un film féministe, on a droit, évidemment, à une scène d'avortement, mais une scène d'avortement à l'ancienne, hein, vintage. C'est pas le truc remboursé par la sécurité sociale. Non, c'est un film chichiteux.
Comme c'était bien quand les femmes mouraient quand elles avortaient. Ah bah oui, bien sûr.
C'est pas ça qu'il a dit. D'abord, tape pas sur la table.
Non, mais c'est un peu ça.
Je te rappelle.
Non, remboursé par la sécurité sociale.
On doit se taper cette Mona Lisa bretonne. Et à un moment, il y a une scène d'un ridicule intense. Une nuit, autour d'un feu de camp, il y a des femmes qui chantent des petites vocalises en tapant dans les mains. Alors tout d'un coup, on se trouve face à des Pointer Sisters bigouden. Là, on se pince. On se dit, on est chez Max Pécasse qui s'amuse. Ah mais non, c'est Céline Sciamma, donc c'est une fille sérieuse. Non, c'est vraiment une copie de Cagneuse. L'héroïne s'appelle Héloïse, comme par hasard, parce que c'est très romantique et romanesque. Non, c'est un film terrible. Je préfère la jeune fille à la perle, qui était un beau navet, mais au moins sans prétention. Puisque c'est un film qui se passe dans une île de l'Atlantique, Kenavo, mais quel navet.
Voilà, on le sentait venir, Sophie. Il a une manière. Hop.
Sophie.
Ça ne t'étonnera pas que je ne sois pas du tout d'accord avec Éric.
Je ne peux plus te voir en peinture.
Je trouve ce film magnifique. Je trouve qu'il est de toute beauté. C'est un film lumineux. C'est un film sublime, pour reprendre l'adjectif qu'a employé tout à l'heure.
Mais tu ne trouves pas qu'il manque le feu du titre?
Non, je trouve pas. Je trouve qu'il est...
Tu ne trouves pas ça glacial?
Non, je trouve pas ça glacial, et je trouve que c'est un film là. Mais c'est un film d'une richesse incroyable, c'est un film d'une beauté totale. Moi, ce que j'aime dans le film, il y a tellement de choses que j'aime que je vais les trier, mais il y a au moins une chose que je voudrais dire, c'est que la façon dont, forte de sa plénitude d'artiste, Céline Sciabba arrive à prendre acte de l'absence des femmes dans l'histoire de l'art, sans revendication aigre, mais au contraire avec douceur, la façon dont elle arrive à montrer que les femmes ne sont pas dans l'histoire de l'art, alors qu'il y avait des peintres, et pour cause, elles n'avaient pas, comme l'explique très bien Marianne à Héloïse, elles n'avaient pas accès à l'anatomie masculine, donc elles ont été écartées des grands sujets de l'époque. La façon dont elle propose joyeusement, encore une fois, vraiment forte de sa propre vocation, de faire de la place à une femme peintre dans son film-là, je trouve que c'est une idée magnifique. Tu as malheureusement parlé de l'avortement. La façon dont elle décide d'inventer un sujet, un grand sujet de peinture, qui soit purement féministe, voilà, c'est inventif, c'est joyeux, c'est une façon de dire, mais c'est pas l'avortement qui est joyeux.
C'est un film
ce que je veux dire, c'est que,
mais
au contraire, il est tout en douceur, tout en proposition, tout en lumière, et il est solaire. C'est un film sur le souvenir aussi. C'est pas qu'un film d'amour entre deux femmes, c'est un film sur le souvenir. Et là encore, d'une manière lumineuse, en interprétant le mythe d'Orphée, elle arrive à dire que l'amour est une chose, certes, fondamentale, mais ce souvenir d'avoir été aimé et ce souvenir d'aimer, c'est encore quelque chose de plus précieux. C'est absolument magnifique et lumineux d'intelligence et incarné, parce que les deux filles, elles sont formidables. Adèle Haenel, elle est fraîche, et l'intensité du regard de Noémie Merlan, et je trouve
vraiment...
Je suis
pas d'accord avec toi, mais tu en parles très bien, ça c'est vrai. Pierre.
Alors, je précise tout de suite que je vais parler en mon nom, parce que mon journal adore ça, donc je suis en contradiction absolue.
Bon, c'est pas la première fois, hein.
C'est quasiment chaque semaine. Oui,
ben,
je le dis quand même. Non, moi, je suis pas rentré dedans. Alors, je suis un peu déçu, moi. Je sais pas ce qui se passe avec ces initiales. Donc j'avais adoré le. Le...
Bande de filles, c'était très bien.
Non.
Ah, la, si. la naissance des pieuvres et Tomboy,
qui était absolument magnifique, Bande de filles. Là, non mais c'est un film qui est fait pour montrer le désir. Alors, lorsque le désir se réalise, c'est bien, c'est très bien, on est content. Et puis, les...
Pour elle.
Oui, oui, absolument. Et ce qui se passe après, très bien. Le problème, c'est la montée du désir.
Et la montée... Ça, c'est toujours un problème.
C'est toujours un problème. Et alors là, c'est un problème parce
surtout
que...
Surtout avec l'usage.
Parce que...
La montée est quand même...
La montée, mais c'est exactement ça, c'est la montée du désir. Et je trouve que la mise en scène, et je parle vraiment de mise en scène, parce que les actrices sont très bien, les plans sont soignés, cadrés, mais c'est un peu froid, en effet. Et donc, ça devient presque un peu académique. Alors que ça devrait être absolument bouleversant. Voilà.
Mais et c'est lorsque... aussi un film sur la peinture académique, c'est aussi un film là-dessus.
Oui, mais...
C'est pas un film sur deux femmes, non, mais c'est un film d'amour,
c'est un film
bien sûr,
mais
c'est...
Sur la peinture.
Non, mais on fait pas un
mais
film...
c'est un film sur la peinture,
mais tu sais
Pierre.
Bien, Sophie, on fait pas un film ennuyeux sur ennui, détestable
mais il est
sur la
ennuyeux,
détestation.
Il est passionnant.
Non, ben non, moi je trouve que ce qui se passe entre les deux devient passionnant à partir du moment où le désir est assouvi, et le film a été fait pour ça. Et le film a été fait pour ces scènes très belles entre les deux femmes, et ce qui leur arrive après. Mais ce qui leur arrive avant, ça dure une heure et quart, et je trouve que...
En plus.
Voilà, je trouve que c'est un petit peu académique, et j'en suis désolé de la part pour Céline Sciamma, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Voilà.
Xavier.
Je suis tellement d'accord avec Sophie que j'ai même pas envie d'en rajouter, parce qu'elle a tellement bien parlé du film avec l'intelligence qui a manqué à nos deux petits camarades, et cette sensibilité.
Ne nous le gouache pas.
Voilà. Alors déjà, si effectivement pour vous, la finalité du film, c'est est-ce qu'elles vont ou pas se lécher le minou, là, franchement, excusez-moi
d'accorder du tout. D'abord, je parle pas comme ça.
Excusez-moi du peu, c'est que vous êtes passé à côté. Il y a un thème, et Sophie l'a très bien rappelé avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité. J'aurais aimé être une femme, en fait. C'est la peinture.
On se calme.
Elle n'a pas le droit de la peindre frontalement. Elle ne peut qu'enregistrer le corps, les émois, la finesse, la silhouette de cette femme.
C'est pas une raison.
Et essayer. Ah, bah, c'est le sujet du film, Pierre.
C'est pas une raison.
C'est peut-être arrivé en retard, mais bon. Et elle n'y arrive pas au début. Elle n'y arrive pas.
J'aurais
aimé
arriver en retard.
Elle est platonique, elle est plate. Elle n'esquisse que des choses comme ça, informes, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de volume, qui n'ont pas de relief. C'est très beau. Elle n'a pas le droit de la faire poser. Donc elle la repose, elle la regarde, elle enregistre des choses. C'est le moment où effectivement elle assume son désir que la peinture se libère. Et c'est tellement beau, c'est tellement universel. Et effectivement, c'est tellement magnifique de le ramener à un art dont les femmes étaient privées à l'époque. Mais pour raconter l'universalité de l'art, c'est-à-dire tomber amoureux, s'en interdire, jouer de cette rétention que vous avez confondue avec de la froideur, c'est normal, vous êtes vieux, mais c'est retenu.
Ça s'arrivera.
C'est claquemuré. Oui.
Et je me demande si ça n'est pas en train d'arriver.
Et en même temps, c'est exactement ça.
Que
ça raconte,
avant d'être vieux,
ça raconte le social de l'époque, ça raconte la place de la femme, ça raconte des choses qu'on décorsette avec beaucoup de subtilité.
Bon, ça y est,
le
assez
film
parlé, là.
Est magnifique.
De la jeune fille en feu, c'est signé Céline Sciamma. Allez, avec... qu'est-ce qu'il y a ?
Non, mais rien. Après, des vieux, là,
après ce qui nous lie...
Mais on t'emmerde, tu vois.
Moi aussi. Mais tu sais quoi, Pierre ? Moi aussi.
Il aimerait tellement être un jeune con. Hein.
Mais je le reste.
Après ce qui nous lie, la comédie, qui était, il faut dire, un peu éventée sur la vigne, mais qui avait beaucoup aimé Xavier, voici Deux mois, D-E-U-X, mois, M-O-I, le nouveau film de Cédric Clapiche avec le comédien qui tourne plus vite que son ombre, François Civil, 29 ans, 4 films cette année, dont Le Chant du Loup, avec également Anna Girardot, et dans les rôles des psys, François Berléand et Camille Cotin. Je vous signale quand même que c'est dans les semaines qui viennent, vous aurez 5 films avec Camille Cotin. Donc François Civil, c'est Rémi, un trentenaire qui traînasse dans Paris, comme sa voisine d'immeuble Mélanie, c'est Anna Girardot, les deux qui se croisent sans se rencontrer au rythme du métro boulot dodo. Alors elle est chercheuse en biologie, lui est engagé sur une plateforme téléphonique, sont du genre dépressif, il faut le savoir avant quand même le début du film. Ils vivent plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et ils cherchent chacun une âme sœur dans un Paris décrit comme un monstre froid. hyper connecté, rempli d'ultra-moderne solitude. Et finalement, moi, j'ai trouvé que le plus attachant, c'était l'épicier Roublard, qui est interprété par Simon Abkarian, assez bien d'ailleurs. Film co-scénarisé, une fois encore, je le précise, par l'écrivain Santiago Amigorena, dont on parlera bientôt au masque du nouveau roman Le Ghetto Intérieur. Un peu plus rapidement, vous me dites ce que vous en pensez, Pierre ?
Ben, c'est pas très bon. Et alors, moi, je pensais qu'il allait nous faire un petit film comme ça, comme on le faisait avant, Jacques Becker. Vous savez, on prend deux personnes et puis on les suit dans leur travail, dans leur boulot, dans la. Et alors, pas du tout. Ça ressemble plutôt à ces émissions de radio, vous savez, qu'on passe, dont France Inter, très longtemps, avait été il y avait une émission très célèbre avec Macha Béranger. Et là, sur beaucoup de radios, il y a comme ça des gens qui viennent et qui se confient. Et alors là, les deux héros font ça. Ils se confient à leur psy et on est là en train de les écouter, leurs petits malheurs, leurs grandes désillusions. Et alors, ça donne.
D'ailleurs, Cotta et Berléand sont très bien en psy.
Oui, mais enfin, le problème, c'est que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on fait un film sur des gens un peu mous, il faut surtout pas faire un film mou. Et donc là, c'est très très mou. Alors finalement, on arrive, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Ces gens sont pas très 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 intéressants. Les comédiens sont pas en cause d'ailleurs, parce que mais ils ont pratiquement pas de personnages à défendre. Alors bon, voilà, c'est pas très intéressant.
Éric, rapidement.
Mais ils sont pas mous, ce sont des bobos, tout bêtement. Alors, ils savent pas quoi faire, et c'est un film qui prouve que le théorème mathématique est vrai. Les parallèles finissent par se rejoindre, comme ils sont voisins.
Mais si on sait pas comment ça va se terminer. Mais
ben si, on le sait.
Non, mais non, mais non,
sinon, y a pas de film.
On ne sait pas.
Non, mais alors,
on ne sait pas.
Non, c'est... on le sait, c'est fait pour ça. C'est une convention, le film, il est fait pour ça. Ils vont se retrouver.
Okay.
C'est un peu comme la vie mode d'emploi de Pérec, mais avec deux personnages. On voit ce qui leur arrive, comme ça, leur vie. Il y en a un qui n'arrive pas à dormir, l'autre qui dort tout le temps. Ils vont chez le même pharmacien. L'épicier leur vend les produits les plus chers. Ils vont adopter tous les deux, sans le savoir, un petit chaton blanc. Il y a des scènes assez jolies. Là. À un moment donné, elle écoute une chanson de Dalida.
Non.
C'est pas Dalida ?
Non. Gloria Lasso.
Mais non, Gloria Lasso.
Gloria, excuse, ne confonds pas.
Pour une fois, je suis pas assez vieux.
Fais-moi plaisir. C'est la moi, pour ma génération de vieux, de très vieux cons, comme dirait Xavier, Dalida et Gloria Lasso, ça n'a absolument rien à voir.
Alors, le mot con a été employé par Éric, mais si tu veux, je peux l'employer.
Mais je te fais tout à fait confiance.
On s'éloigne du film, les gars.
Oui, là, je ne sais pas ce qui se passe.
Et Paris réussit beaucoup plus au réalisateur que la Bourgogne du dernier film. Là, on voit des trains de banlieue, des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et le film est assez mignon, réussi, sans prétention.
Tout un monde que tu connais bien.
Non, il y a deux trucs qui clochent. C'est la séquence de cauchemar et la séquence de rêve, ça... Il aurait pu les supprimer, mais dans tous les films, il faudrait éviter ça.
Xavier.
Le problème, c'est qu'il y a deux films. Un que j'aime plutôt bien, qui est presque graphique, sans dialogue, avec cette cohabitation. Ils habitent quand même des appartements mitoyens. Ils pourraient se rencontrer.
Alors, c'est pas exactement le même immeuble, mais.
Non, c'est pas le même immeuble. Voilà. Les immeubles sont mitoyens, mais les appartements sont accolés, ce qui donne cette très jolie scène avec la musique de Gloria, enfin, la chanson de Gloria Lasso. Et effectivement.
Ah non, c'est pas Jennifer. Non.
Et effectivement, tout ce qui est de ce Paris 18e, Porte de la Chapelle, est assez joli, ils se croisent, et le film joue évidemment avec notre envie qu'ils se rencontrent, soit pour que le film se termine plus tôt, soit parce qu'on les trouve très mignons, et que vraiment, en plus, François Civil et Anna Girardot sont absolument magnifiques, sublimes, enfin vraiment, l'absence de dialogue dans cette partie-là, en tout cas, leur sied complètement, parce qu'ils jouent avec des regards un peu comme ça, éperdus, jolis. Le problème, c'est le deuxième film sur les psys, et là, j'ai l'impression d'être au restaurant chinois, vous avez à la fin, vous avez les Fortune Cookies que vous cassez et qui vous dit des grandes choses sur la vie. Prends la porte de droite, tu ne prendras pas celle de gauche. Ben, c'est un petit peu ça que leur disent les psys. C'est-à-dire, en gros, c'est il faut que tu t'aimes.
C'est comme ça, les psys. Hein.
Il faut que tu t'aimes avant d'être aimé. Ah ouais, d'accord, ok, bien sûr. À 100 euros, la séance, je me suis un petit peu fait avoir.
Ah,
il ne suffit pas d'avoir
compris
le problème pour pouvoir régler le problème, mais en même temps, il est nécessaire de régler le problème pour pouvoir l'avoir compris. Et là, on se dit, oh non, alors là, ça ne marche pas du tout. Et toutes ces séances chez le psy, malgré la présence très gourmande de Berléand et de Cotin, sont totalement inutiles et totalement en dehors de la plaque.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le film a des défauts. C'est vrai, je les vois. Il a des faiblesses.
Sur le cinéma,
oui, pardonne-moi. Mais là, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'au contraire, il y a une justesse de la psychanalyse qui est quand même. Alors, je suis pas emballée par ce que fait, par le duo Camille Cotin et Anna Girardot. Mais je trouve que les face-à-face entre François Civil et Berléand, moi, vraiment, j'ai trouvé que Berléand, là, en effet, comme tu
même,
disais,
il
Jérôme,
est même émouvant, je trouve, Berléand.
Il est bouleversant.
Dans ce rôle de psy.
Il est d'une finesse, d'une humanité. Il a une finesse de jeu.
fin de carrière.
Oui, il est en fin de carrière et il reçoit ce François Civil, enfin ce Rémy, puisqu'il joue le rôle de Rémy, François Civil. Il est déprimé, il est dépressif, il ne le sait même pas. Et en fait, il est dévasté par quelque chose, évidemment, sur lequel il n'a jamais mis de mots, sur lequel il n'a jamais mis de rien. Il ne sait pas. Et il est très étonné de se retrouver face à un psy. Bon, pour aller vite, et c'est grâce à ce psy que va remonter quelque chose dont je ne dirai rien, mais qui réellement est bouleversant parce que c'est d'une très grande justesse. Et il faut quand même dire que le film aussi est assez drôle. Alors, en effet, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a des défauts dans le film, il y a des facilités, comme toujours chez Clapiche, il y a toujours des facilités et tout. Mais sur sa façon de saisir la dévitalisation de ces trentenaires-là, je trouve, est vraiment, vraiment très juste.
Deux mois de Cédric Clapiche. Très rapidement, on a vraiment une poignée de minutes. J'avais inscrit ce film d'animation signé Zabou Breitman, Les Hirondelles de Kaboul, avec la dessinatrice Eléa Gebe-Mevelec, avec les voix de Simon Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo, Yamamas, mais il y a même le père d'ailleurs disparu de Zabou, qui est Jean-Claude de Rey. Et c'est, voilà, malheureusement, c'est l'adaptation du roman de Yasmina Kadra, qui n'était pas très bon, mais j'ai pas envie d'en dire du mal, vite, simplement.
Mais alors, très vite, il me semble que la mise en scène de Zabou Breitman, qui d'habitude est très chantournée, qui fait des films...
C'est pas la mise en scène,
sont...
là.
Non, mais c'est quand même sa mise en scène, parce qu'elle est, ce que je veux dire, c'est qu'elle a toujours fait des films, la mise en scène extrêmement maniérée, et insupportable, et on a le sentiment que le dessin de Eléa Gobé-Mévelec, la soulage d'une sorte de délicatesse, qui lui permet d'être beaucoup plus sèche dans sa mise en scène. Oui, mais le trait est quand même assez délicat. Le trait
presque des aquarelles, d'ailleurs.
Voilà. Et du coup, ça la dégage d'une certaine forme d'extrême maniérisme qui lui permet d'être beaucoup plus sèche dans sa mise en scène. Et du coup, je trouve que le film est assez efficace, notamment la scène de lapidation. Il n'y a pas de musique, on entend le souffle de cette femme qui tombe à genoux. Oui, je trouve que quand même, le film est assez beau.
Un mot. Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie, j'ai des réserves comme toi sur le roman de Kadra, mais ce qu'elles en font toutes les deux en termes de dessin, d'esthétisme, de mise en scène de cadre, c'est de l'aquarelle, c'est du trait esquissé, il y a énormément de blanc à l'intérieur et à l'extérieur du cadre, enfin bref, c'est un film très aéré, donc on n'est pas dans une espèce de réalisme testimonial hyper fort, elle touche à l'universalité de ce sujet, il y a du son, il y a beaucoup effectivement de bruit de la ville, de cette ville comme ça à l'abandon, donc elles ont fait ce qu'elles ont pu sur un roman qui n'est pas très intéressant, mais ce qu'elles proposent formellement, esthétiquement, est extrêmement intéressant.
Eric,
Si le film avait été joué par des acteurs en chair et en os, ça aurait été encore pire, je crois.
Ça, sans doute.
Oui. Et c'est la seule qualité de cette aquarelle qui est vraiment avec beaucoup d'eau, puisque les talibans interdisent l'alcool. Voilà.
Oh là là.
Pierre.
Je trouve que c'est un film qui est moins émouvant qu'il le faudrait, quoi. C'est-à-dire que l'esthétique, encore une fois, est magnifique. Donc, vous l'avez tous dit, je n'y reviens pas. Les dialogues sont peut-être un tout petit peu. Bon, et en plus, c'est un sujet tellement extraordinairement bouleversant que je m'attendais à être un peu plus bouleversé que ça. Mais voilà.
Les Hirondelles de Kaboul. Et puis, j'avais également inscrit Le Chardonneret. Alors là, c'est l'interminable adaptation. 2h30 quand même. Par John Crowley, du roman de Donna Tartt, avec Nicole Kidman et Ansel Elgort. On peut passer, non,
Xavier? Très, très mauvais.
C'est effrayant.
Le
roman était très bien. Le roman était formidable.
C'est une caricature du cinéma d'auteur vu par les Américains où tout le monde a des reflux gastriques avant de dire sa réplique tellement il est bouleversé. Maman est morte.
C'est jamais émouvant.
Des ralentis, ça n'est jamais émouvant. On s'en fout. Ah non, c'est même exaspérant. C'est de la psychanalyse à deux balles. Non, mais au secours, quoi.
Et tout ce qui est beau dans le livre, tout ce qui est l'ampleur, la virtuosité de Donna Tartt, etc. Ici, c'est surjoué, c'est ampoulé, tout est écrasé par une mise en scène et des effets de manche qui sont insupportables et une musique insupportable.
Pour, je le rappelle, un roman très beau et passionnant. Eric.
C'est le même problème qu'avec les adaptations de John Irving. Les romans sont tellement foisonnants, riches et intelligents. Qu'à l'écran, ça donne un truc complètement plat. Et il y a une visite au Metropolitan de New York. Et si on veut voir ce musée, il est dans le film de Woody Allen et c'est 100 fois mieux.
Et Pierre?
C'est pas très très bon, en tout cas. C'est très long, surtout. C'est très
2h30.
Long. 2h30. Curieusement, c'est. Parce que c'est rare. C'est pas très bien interprété. Les acteurs sont pas très bien. Même Nicole Kidman, qui est, dirons-nous, peut-être un peu figée.
Allez, c'est ce qui reste du Chardonneret. Et je vous laisse conseiller un film pour terminer cette émission. Sophie.
Deux films très rapidement. Les fleurs amères d'Olivier May. C'est un réalisateur belge qui filme une femme chinoise. Et c'est très beau parce que c'est un très beau portrait de femme qui vient travailler en France, à Paris, à travers laquelle il arrive à filmer la Chine contemporaine. C'est un très très beau film. Et Tu mérites un amour d'Avia Herzi, qui est une petite merveille de film. C'est son premier film de réalisatrice. Elle joue dedans. Et c'est un film sur un chagrin d'amour. C'est un petit film plein d'humour merveilleux.
Le conseil de Xavier.
Le Jeanne de Bruno Dumont, j'avais détesté Jeannette.
Et d'ailleurs, donc, on en avait parlé ici au Masque à Nancy, en disant le plus grand mal.
Et à juste titre, et ce film-là est touché par la grâce, ce sont les procès, c'est l'Inquisition, une musique extraordinaire, chantée, interprétée, composée par Christophe, dont je ne dirai pas quel rôle il joue.
Il joue dedans,
et la surprise rôle, est tellement belle et tellement cohérente. Et c'est un film, encore une fois, touché par la grâce d'une beauté absolue, qui est une comédie musicale, puisqu'à un moment, il y a un ballet de chevaux. Ah non, mais vraiment, c'est une merveille.
Moi, je conseille un documentaire qui s'appelle « Nous, le peuple » de Claudine Bory et Patrice Chagnard, qui est un documentaire français assez incroyable, parce qu'il est tourné juste avant la révolte des Gilets jaunes et qu'il l'annonce vraiment du début à la fin, avec trois groupes, des mères de famille de Villeneuve-Saint-Georges, des hommes détenus à Fleury et des lycéens de Sarcelles, et puis qui vont rédiger une nouvelle constitution qu'ils veulent apporter au Palais Bourbon. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Je vous le dirai pas, mais en tout cas, c'est un film, vraiment un film passionnant, qui donne la parole, et bien, je trouve, des manières originales aux oubliés de la République. Le conseil d'Éric.
C'est un film qui sort directement en DVD, on se demande bien pourquoi, parce que c'est un des meilleurs polars qu'on ait vu depuis des mois, sinon des années. C'est Traîné sur le bitume, d'un nommé Craig Zeller, avec un Mel Gibson qu'on revoit épaissi, grisonnant, avec une moustache. C'est devenu le sosie de Roland McDan. Et il est prodigieux dans le film. Il joue un flic qui a fait une bavure, donc qui est mis en disponibilité et qui va basculer dans la truandise. Et le film est aussi bon qu'un Melville, un Michael Mann, et c'est un scandale que ça passe directement en VOD ou en DVD.
Pierrot.
Tout le monde sait que je défends bien le cinéma. Enfin bien, j'essaie de défendre le cinéma russe, et donc qui est en pleine renaissance, je trouve. Et là, il y a un film qui vient de sortir de Ivan Tverdovsky qui s'appelle L'Insensible, et qui est très intéressant pour une raison très simple, c'est que c'est un jeune homme que sa mère a foutu dans un orphelinat et qu'elle ressort lorsqu'elle s'aperçoit qu'il a un don, c'est-à-dire qu'il est insensible à la douleur. Et grâce à ça, elle va en faire le roi de la petite ville, parce qu'elle va le faire participer à des escroqueries. C'est à la fois passionnant, très dur, et ça rappelle un peu, pas dans le style, mais dans l'idée de la Russie actuelle, ce que faisait Zviagintsev dans Faute d'amour, c'est-à-dire une insensibilité totale. C'est tout à fait passionnant.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Éric Nehoff, Pierre Murat et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir à l'Opéra de Nancy, à la technique, et je les remercie, Stéphane Foulon, Olivier Leroux, Nicolas Depagraphe, Tanguy Lecorneau, chargé de production Guillaume Rialan. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 26 septembre. Ce sera au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions. L'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. On parle de films dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain depuis Nancy sur France Inter, évidemment.